Portrait d'Isère, notre invité aujourd'hui, Patrick Comsi, de l'atelier Afresco à Hésin-Pinet. Atelier qui réalise des fresques en trompe-l'œil et qui vient de remporter un double pinceau. Un pinceau d'or pour Aurec-sur-Loire et un pinceau d'argent pour Estrablin, une commune située près de Vienne. Après avoir grandi au Cameroun, il regagne la France, Paris, puis Lyon, où il fait les beaux-arts. Pas du tout attiré par l'univers mondain des salons, il sort sa peinture des cadres pour la partager avec les gens qui en sont éloignés. Et si son activité tourne essentiellement autour des villages dont il cherche à restituer l'histoire, à en faire ressortir l'identité, il a réalisé également des fresques pour le cinéma à Cannes, la plus longue fresque du monde à Levallois-Perret, et il a en outre exercé son art à Mexico, le pays des fresques murales. Et jusqu'à 14h, c'est des studios de France Bleu Isère que Patrick Comsi se raconte.
13h30, 14h, Michel Caron, France Bleu Isère.
Patrick Comsi, bonjour.
Bonjour Michel Caron.
La banane, tout le temps en train de rire. Hein,
ah ben écoutez, tant qu'on peut.
Un joyeux luron.
On essaye. Je ne vois pas pourquoi j'embêterais les autres avec mes états d'âme négatifs.
Vous avez raison. Là, on va rester très positif comme toujours. Dans Portrait d'Isère, très positif, on peut l'être, hein, puisque vous avez reçu, remporté deux pinceaux, un pinceau en or, un pinceau en argent. Donc, ce qui veut dire, c'est un peu comme des Molières pour le théâtre.
Oui, enfin, ce sont des pinceaux virtuels, hein. Je n'ai pas trop fait réel. Oui, c'est un site internet qui fait référence en matière de fresques murales, qui s'appelle trompe-l'œil.info, et sur lequel il y a, je crois, plus de 4000 fresques répertoriées sur 40 000 photos, et qui, chaque année, donc depuis 9 ans, organise ce fameux concours du pinceau d'or qui est censé représenter, enfin, élire la plus belle, entre guillemets, fresque, en tout cas de France.
Voilà. Modestie avec ça, Patrick Comsi. Mais non, c'est magnifique fresque. Alors, le pinceau d'or, c'était pour une fresque qui était à Aurec-sur-Loire, donc on n'en parle pas. Et celle qui nous intéresse, c'est le pinceau d'argent qui vous a été remis pour la fresque à Estrablin. Oui. Alors, racontez-nous cette fresque qui est vraiment très très belle.
Merci. Bah, écoutez, c'est un bâtiment qui se trouve en plein centre du village, au cœur du village d'Estrablin, à 10 minutes de Vienne. C'est une fresque en deux parties, puisque il y a deux murs qui font angle, en réalité. Donc, sur l'une des deux façades, on a repris des éléments d'architecture d'un café qui existait autrefois, qui s'appelait le Café Reynaud, et dont les gens sur place avaient gardé des souvenirs truculents, puisque...
Grâce à la patronne.
Grâce notamment à la patronne, la fameuse Louise.
La mère Louise.
Voilà, qui semblait, d'après ce qu'on a entendu, être un personnage vraiment truculent.
Oui, on l'imagine avec, vous me disiez, avec la cigarette
avec
au coin du bec.
Avec la clope au bec en permanence, et dont on a retrouvé une malheureuse photo à peine lisible, et on a essayé donc d'imaginer son allure générale, son portrait. On l'a reproduite donc dans un bar reconstitué en trompe-l'œil, où on voit en terrasse des gens qui lisent le Dauphiné, qui boivent la boisson locale.
La quinquina bruyère.
Exactement, puisque l'idée, en fait, dans toutes ces fresques que je réalise, c'est effectivement de s'inspirer d'éléments qui sont spécifiques à l'endroit où sera la fresque. C'est-à-dire qu'une fresque comme ça, ailleurs, n'aurait pas de sens. En revanche, sur place, elle trouve tout son sens, puisqu'elle révèle soit des éléments du passé, patrimoniaux, historiques, sociologiques. En tout cas, elle s'inscrit dans l'esprit du lieu, ce qui permet aux gens de la comprendre, déjà, de l'affectionner, de se l'approprier, voire même de la protéger, des éventuels taggeurs, par exemple. Et donc, la démarche, c'est celle-là. Donc, effectivement, on retrouve les établissements bruyères qui ont disparu depuis bien longtemps. On retrouve ce café Reynaud, on retrouve...
Les bougies viennoises.
Voilà une vieille affiche des bougies viennoises, puisque à Estrablin il existait une très grosse, je crois qu'on appelle ça une saponnerie, enfin une usine qui fabriquait du savon et des bougies.
C'est extrêmement détaillé, hein. C'est une histoire que vous racontez à travers cette fresque, en fait. C'est l'histoire.
Oui, voilà. Enfin, l'histoire, c'est bon. En tout cas, une partie de l'histoire. En tout cas, l'identité. On essaye effectivement de faire en sorte que cette fresque devienne un peu une espèce de carte d'identité monumentale, géante et permanente. Des fresques qui habitent des habitants, des gens qui sont sur place. Et pour les éventuels visiteurs ou touristes ou passants, un résumé de cette histoire. Bon, ils savent où ils sont, quoi. Donc, de l'autre côté, sur le second mur qui fait angle, on a représenté à travers un paysage, à travers une arche d'aqueduc. Et là, le thème, c'est l'eau, puisqu'il se trouve qu'Estrablin, le sous-sol d'Estrablin regorge de sources qui alimentent toute la vallée, toutes les communes voisines. Et donc, on retrouve ici la Gère, donc la rivière qui passe là-bas. On retrouve des lavandières, une porteuse d'eau, un héron de rivière. Enfin bref, que des éléments comme ça qui rappellent la présence importante de l'eau dans cette commune.
C'est très frais, très frais. Alors, quand vous êtes allé sur place, vous avez rencontré les habitants d'Estrablin qui vous ont parlé de cette fameuse Louise. Comment vous procédez, Patrick Comcy?
Bah, effectivement, quand on arrive quelque part, quelle que soit la ville ou le village, on arrive sans idée. On essaie d'arriver sans idée préconçue et puis surtout de se renseigner. Donc, il y a tout un petit travail, on va dire, de recherche iconographique, d'enquête un petit peu, pour trouver tous ces éléments distinctifs, spécifiques, qui parfois va plus loin que ça. On a aussi parfois des démarches carrément de concertation. On met en place des systèmes de concertation avec les habitants pour cerner la fresque à produire, dans la mesure où moi j'arrive sans idée, enfin j'ai pas pour vocation dans ma démarche, dans cette démarche de muraliste, de venir imposer une image que j'aurais en tête. J'arrive vierge, le plus possible en tout cas. Et c'est tout l'inverse d'une démarche purement artistique de peintre de chevalet, par exemple, qui lui projette sur une toile vierge ses fantasmes, ses désirs, et quelque part
vous partez des désirs des gens, en quelque sorte.
Voilà, c'est ça, l'idée c'est ça.
Patrick Comcy, on va venir sur votre parcours, parce qu'il faut quand même savoir que vous vouliez devenir vétérinaire, vous êtes passé par le Cameroun, il y a pas mal de choses à découvrir sur vous. Vous avez grandi au Cameroun, où votre père était coopérant, et c'est peut-être ça, ce pays qui vous a marqué, les couleurs du pays qui vous ont...
De toute façon, quand on passe son enfance, sa prime enfance jusqu'à l'adolescence, enfin jusqu'à l'âge de 18 ans, dans un pays exotique, enfin autre, ça devient son pays. C'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'on commence à regarder à plus d'1m50 de soi, vers les 7-8 ans, et qu'on découvre le monde, il y a tout un ensemble de choses qui vous marquent. C'est pas tant des souvenirs précis, anecdotiques, que des sensations, des atmosphères, des odeurs, quelque chose de tellurique, qui fait que finalement, c'est le droit du sol, j'allais dire, auquel je crois beaucoup plus qu'au droit du sang, et qui vous marque à vie. Moi, j'ai le cul entre deux chaises, ou le cœur entre deux lits, enfin, je sais pas comment il faut
vous
dire à la radio.
Vous parliez bien jusqu'à présent, là.
Je parle comme je veux, j'ai le cœur entre deux lits, voilà. Non, mais...
le cœur entre deux lits, oui.
Voilà.
Ça ne va pas plaire à tout le monde.
J'ai écrit récemment, j'ai fait un peu des petites chansons pour moi, j'ai écrit une chanson qui dit, par exemple, je suis né à Douala, mais je vis à Paris, je ne suis pas de là-bas, je ne suis pas d'ici. L'Afrique où j'ai grandi est ma terre battue, et la France où je vis, ma famille perdue. Donc ça résume un peu, quoi. Et après, ça dit, j'y retourne parfois sur le champ des tam-tams, et du coup, je tape sur des percussions africaines.
Oui, parce qu'en plus, il est auteur, cet homme-là, Patrick Comcy.
Non, mais voilà, c'est
si...
pour vous dire l'importance, effectivement. Je comprends tous ces gens qui ont été expatriés à un moment donné ou un autre dans leur adolescence. On reste marqués positivement et négativement, d'ailleurs, à vie.
Alors vous, c'est positif. ce qui est moins positif, c'est quand vous débarquez à Paris, donc vous le disiez, à l'âge de 18 ans, avec l'idée de faire des études de vétérinaire. Et là, vous découvrez la neige pour la première fois.
Oui, c'est un peu ça, oui. J'ai fait une boule que j'ai posée sur un radiateur en disant je la retrouverai demain, mais mauvaise surprise.
Vous n'étiez pas très bon à l'école, hein. Pour comprendre qu'une boule sur un radiateur.
Dans les années fin 60, en Afrique, on avait peu d'accès à la culture occidentale, donc pas de radio, pas de télé, pas de journaux, ce qui fait qu'effectivement, quand on débarque en France à 18 ans, on est juste nul, quoi. Dans ce domaine, culturellement parlant en tout cas.
Alors vous avez fait l'armée, c'est là que votre vocation, si je puis dire, a été déclenchée. Racontez-nous ça, Patrick Comcy.
Oui, un peu par défaut, parce que comme vous l'avez dit au départ, j'avais la prétention de vouloir être vétérinaire, et puis ayant abandonné ces études-là, je me suis retrouvé à faire mon service militaire, parce qu'à l'époque ça existait encore. Et donc je croise dans les couloirs un type qui, contrairement à nous tous, évitait toutes les corvées, les marches dans la neige, le fait de garder des entrepôts de munitions où il n'y avait pas de munitions, le fait de marcher avec des sacs à dos très lourds pendant des jours et des jours. Lui ne faisait rien, il avait les cheveux longs, il était en basket et il peignait les murs des casernes, enfin les murs des couloirs des casernes, des capitaineries. Alors je vais le voir, je lui dis, mais comment ça se fait toi que t'es un peu pistonné? Il me fait, non, moi j'ai fait les écoles, une école d'art, je ne sais plus laquelle. Bon. Et du coup, voilà, on me laisse faire ça. Et comme je cherchais, moi, reprendre des études, mais sur un mode moins magistral que précédemment, je me suis dit, les Beaux-Arts, parfait, ça va m'aller. J'avais, à l'époque, ma copine était à Lyon, Beaux-Arts de Lyon, c'est parti.
Et c'est parti. Mais alors, vous avez fait les Beaux-Arts, vous avez eu votre diplôme, bien encadré, et vous n'aimiez pas tellement cette atmosphère d'artiste, un peu de salon quand même. Hein, de...
Ah oui, plus que de salon, on était dans les années 1070, en pleine mode de 1970, oui, pas 1800 quand même. Et on était en pleine furie de l'art américain, donc vous savez, le minimal art, toute une série de choses extrêmement intellectuelles, où la peinture avait... D'ailleurs, on déclarait que la peinture était morte. Déjà, Donc effectivement, je me sentais pas à l'aise, et pour une autre raison aussi, c'est que moi j'avais très envie que mon activité, alors qu'elle soit artistique ou artisanale, peu m'importe les termes, mais en tout cas qu'elle ait un impact sur la vie quotidienne des gens. Or là, on était dans un univers, l'univers officiel, institutionnel de l'art, qui tout à l'inverse est connecté uniquement avec les galeries, les collectionneurs, est complètement coupé, le marché de l'art est complètement coupé de la vie quotidienne des gens, et par décision, enfin on pourra en parler longtemps, mais... Donc voilà, dès la première année, avec des camarades, on a monté une association pour sortir de ce cercle vicieux et pour travailler dans la rue, dans les milieux notamment les plus où l'art avait le moins accès. Donc hôpitaux psychiatriques, maisons pour enfants en difficulté, quartiers difficiles, etc. Et pendant, on a fait 8 ans de bénévolat comme ça pour essayer d'apporter un peu de couleur à droite à gauche.
Alors ça vous a donné l'occasion de faire des petits boulots
Oui, il fallait, parallèlement à ce bénévolat, il fallait bien manger. Donc effectivement, chacun d'entre nous avait des petits boulots. Je vois, vous voulez m'emmener. J'ai entre autres choses vendu des machines à laver. Bon, ça va. J'ai aussi passé un CAP de projectionniste au cinéma, ce qui m'a valu de passer un an et demi à projeter des films pornographiques dans les dernières salles de Lyon à l'époque d'avant la vidéo et d'avant Internet. Voilà, c'est dit.
Votre fille vous écoute, faites attention.
C'est ma fille, m'écoute.
Voilà. Et donc, vous avez une sacrée vie quand même, hein, Patrick, comme si. Vous en sortez pas mal, hein, après les projections de films porno. Donc après coopérative, hein, vous créez une coopérative, c'est ça?
Oui, l'association dont je parlais tout à l'heure s'est peu à peu transformée en SCOP, coopérative. Et j'ai fini par quitter cette entreprise au bout de 28 ans, je crois, en tout cas dans les années début 2000, pour me mettre travailler seul, voilà, à mon compte, sous le nom d'Afresco, donc.
Et tout ça dans un atelier installé au fond de votre jardin.
Absolument.
Vous avez donc remporté, on le rappelle, le pinceau d'argent pour votre fresque à Estramblain. Vous avez réalisé d'autres fresques en Isère, Patrick?
Oui, j'ai dû réaliser 7 ou 8, entre autres dans les villes ou villages du Grand Lens, à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, à Cor, à Estrabin, à Aisin.
Oui, Saint-Étienne-de-Saint-Joire, on s'y arrête, c'est là qu'il y a la fameuse fresque avec Rose Vallant.
Exact, oui, il se trouve que c'est le village de naissance, et où est enterrée aussi d'ailleurs Rose Vallant, cette résistante de l'art, comme on l'appelle.
Qui a sauvé
quelque chose comme, je crois, 60 000 œuvres d'art qui avaient été spoliées, par les nazis à l'époque, pendant la guerre. Et au risque, au péril de sa vie d'ailleurs, elle passait son temps à noter ce que les Allemands emmenaient, oui, et éventuellement où ils les emmenaient, ces œuvres d'art, avec quand même des tableaux respectables, hein, la Joconde, oui, l'Angélus de Millet. Enfin,
vous avez redessiné la Joconde d'ailleurs.
Voilà, donc on a dans ce village rendu hommage à cette dame, qui est une grande dame, qui est enterré là-bas et qui jusque-là était, on va dire, méconnu avant que les Américains ne fassent le film l'an dernier, dont j'ai oublié le nom.
Moi aussi.
Dans lequel
elle
figure sur la récupération de ses œuvres d'art, puisque après la libération, elle a donc coopéré avec les Américains pour aller sur place en Allemagne récupérer toutes ces sculptures et ces peintures qui avaient été volées. Oui.
Alors on fait un petit tour au Grand Lens où il y a la Fée Verte. Alors ça, c'est pas mal non plus. C'est un bistrot.
Alors, la Fée Verte, il y a encore un bistrot, vous voyez, c'est un thème récurrent, hein, un peu. Ouais. Ben, c'est là où se passe la vie, souvent, hein, où les gens se croisent. En l'occurrence, au Grand Lens, c'est le village d'enfance de Claude Bonnard et de Claude Terrasse, le musicien, Claude Bonnard le peintre. Et
oui,
donc, ces deux grands personnages se rencontraient fréquemment dans un bistrot du coin, qu'on a surnommé la Fée Verte, en hommage aux deux usines d'absinthe qui existaient autrefois au Grand Lens. Donc voilà, là aussi, on retrouve, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, donc des éléments typiques qu'on ne peut pas trouver ailleurs. L'architecture est en galets roulés, en arêtes de poisson. Ça, c'est typiquement dauphinois, on ne peut pas le trouver à Brest. L'absinthe, etc. Donc l'idée, c'est bien ça, c'est chaque fois de mettre en scène toutes les spécificités locales pour créer une fresque qui parle des gens et du lieu, quoi.
Alors on va sortir un petit peu du département pour aller dans la région parisienne, où là vous avez réalisé une fresque géante, c'était à Levallois-Perret, dans un parking. Donc c'était une sorte de musée souterrain.
En quelque sorte. Ou alors c'est un projet qui était passionnant, qu'on a mené en 2012. Il a fallu que je m'associe à une trentaine de peintres pour le réaliser, parce qu'on avait finalement 6 mois seulement pour réaliser 250 fresques, pas très hautes, puisque il s'agit d'un parking souterrain, mais en revanche tout en longueur, ce qui fait quand on les met bout à bout, ça représente 5
km. C'est la plus grande fresque du monde. Hein.
Alors j'ai cherché sur Internet, c'est la plus longue. La plus longue. En surface, elle fait 8000 m2. C'est une des plus grandes, je pense. Et donc l'idée, là, ça a été effectivement, le thème en tout cas, c'est 250 fresques, chacune représente un Français célèbre ou méconnu, mais qui mériterait d'être célèbre, parmi les scientifiques, les artistes, on enlevait tout ce qui était politique, pornographie et religion.
Vous avez arrêté la pornographie.
Comme toujours, voilà. Et donc, on retrouve aussi bien, comment dire, les noms de banques.
J'en avais noté, il y avait Joe Dassin.
Oui, voilà. Alors, après.
Joe Dassin, Champollion aussi.
Voilà.
Des réalisateurs, bon, enfin, oui, des personnalités célèbres. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, évidemment, vous les reproduisez, et puis vous illustrez leur activité et une petite biographie. Et c'est assez passionnant.
Voilà, c'est l'aspect un petit peu, on va dire, pédagogique de la chose. On peut voir le personnage, quelle que soit son époque, ça court sur plusieurs siècles, en couleur, de façon un peu réaliste. Des objets ou des images concomitant à son activité ou à son invention. Et puis une petite biographie en quelques lignes, effectivement. Donc il y a un site entièrement dédié maintenant à ce projet, d'ailleurs, un site internet, fresquedesfrançais.com, où les gamins, éventuellement les ados, les gens du collège peuvent effectivement se renseigner, découvrir
c'est,
des personnes.
C'est instructif. Alors oui, vous êtes allé aussi au Mexique, vous êtes allé à Cannes, où vous avez réalisé, vous avez dessiné notamment Marilyn, Chaplin et tout ça. Tout ça, on peut voir sur votre site, qui sera sur notre site francebleu.fr. Et bien, ça va être le moment de la question à l'invité. C'est juste après Valentin Marceau sur France Bleu Isère.
Les portraits de l'Isère, Michel Caron.
Patrick, comme si vous avez choisi votre compagne pour vous poser une question. Elle est là en direct au téléphone. Bonjour Marion.
Oui, bonjour Michel Caron. Bonjour Patrick et bonjour à tous dans l'Isère.
Oh, comme c'est gentil. Alors, vous avez une question à poser à votre compagnon Patrick. Allez-y, il vous écoute Marion.
Oui, alors on a beaucoup voyagé ensemble. Hein. On est allé déjà pour le plaisir en Afrique, bien sûr. Donc dans différents pays, à Cuba, en Inde, et pour le travail au Mexique, en Italie. Et c'est vrai que réaliser des fresques au bout du monde, c'est toujours une expérience magnifique et tellement enrichissante. Et j'aimerais bien savoir si Patrick, tu as un projet à l'étranger où tu pourrais m'emmener vivre une nouvelle aventure avec mes pinceaux, mes couleurs et rencontrer des gens parce que c'est vraiment très très riche ce type d'expérience.
Alors Patrick,
ça, très envie.
Voilà. Ça c'est le une piège, belle demande. Hein,
piège, non, c'est pas une demande, c'est un piège. Voilà, c'est tout le monde écoute, donc je suis obligé de dire oui chérie, je vais trouver une solution. Tu sais bien que pour toi, je pourrais même détourner un avion, puisque récemment, c'est ce que j'ai fait.
Non, vous avez détourné un avion. Aïe, les forces de l'ordre qui
bien involontairement,
sont
hein, n'appelez pas la police.
Bon. Non, racontez-nous ce détournement.
Bah, écoutez, j'étais invité dans une université mexicaine au nord-est du Mexique, à Monterrey, une très grosse ville. Et puis là-bas, il fait très très chaud, c'est 40 minimum. Donc bien fatigué, qu'une semaine après, je reprends l'avion pour rentrer et je me tape une intoxication alimentaire la veille. Donc j'étais vraiment dans un état pas terrible. Et puis dans l'avion donc Mexico-Londres, au bout d'une heure de vol, il me prend une grosse grosse douleur au thorax que je cache, que je camoufle, etc. Mais une hôtesse voit le manège et m'a plus lâché. Donc au bout d'un moment, j'entends Your commandant speaking. Et nous allons détourner l'avion sur Chicago, car nous avons un passager malade. Et moi, de me dire, ah, il y a encore un vieux croum qui, hein, en incapacité de voyager, qui a pris l'avion. Pas une seconde, je pensais que c'était moi. On atterrit à Chicago, donc de nuit. 4 hamburgers sur pâte arrivent, 2 blancs pour les infirmiers et 2 bleus pour la police. Me foutent dans une civière, me font traverser avec toute ma honte l'avion en entier. Alors que moi, j'allais beaucoup mieux. J'arrêtais pas de dire, mais lâchez-moi, tout va bien. Le tarmac, la nuit, vous savez, le réacteur encore qui tourne, énorme ambulance comme dans Dr House, là, américaine, enfin bon, tout ça quand même impressionnant. Et il m'emmène à l'hôpital, voilà, j'ai détourné à 747. 12 heures d'examen, 3 scanners, 2 Doppler, des prises de sang à plus compter, etc. Et au bout de 12 heures, eh ben écoutez, finally, everything is okay, you can go. You can go where? Moi, j'avais plus de valise. Ma valise était à Londres. J'avais pas un rond, plus de batterie dans mon portable. Enfin, le plouc à Chicago la nuit. Donc, chérie, si tu veux une aventure comme ça, je peux recommencer, mais je pense qu'ils m'ont repéré. Là, ils m'ont pris pour une mule en plus. J'ai su qu'en fait.
Alors, une mule, hein, vous nous expliquez.
Et oui,
nous,
dans leurs critères
pas, hein.
En question, il y a le fait que certains passagers, on le sait, avalent des.
Messagers de drogue.
Des préservatifs bourrés de drogue dans leur estomac. Et donc, comme moi, j'étais très, très malade, malade et que je voulais surtout pas qu'on s'occupe de moi, ils sont venus aussi bien. Ils m'ont pris pour une mule.
Bon, vous avez compris, la destination, on la connaît pas, mais en tout cas, il faudra un vol, il faudra qu'ils soient en forme ce jour-là. Merci beaucoup, Marion, pour cette intervention.
Passez une
bonne après-midi à vous. Merci beaucoup, Patrick. On vous écouterait pendant des heures, mais c'est déjà l'heure de nous quitter.
Moi aussi.
On pourra réécouter cette émission sur FranceBleu.fr avec toutes vos coordonnées. Merci à vous.